Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus, c'est Clotilde Seille et c'est une nouvelle fois à livre découvert qui commence pour vous. Nouvelle formule cette année puisque nouvelle durée, une heure de temps avec vous, une heure avec nos invités et puis plein de titres à vous proposer. Alors ne perdons pas de temps et commençons tout de suite.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, j'ai pour vous d'abord un entretien avec Gérald Cousineau, un abonné, et je dirais presque un abonné de l'émission aussi, non seulement du SQLA, mais aussi de l'émission qui va venir nous présenter un livre. J'accueille Michel Langlois, scénariste, cinéaste et documentariste et auteur du documentaire Anne des 20 jours, sorti en 20 mai 2014. De quelle Anne s'agit-il? Il s'agit d'Anne Hébert. On pourrait presque considérer que cette première demi-heure de l'émission, c'est presque un spécial Anne Hébert. Et puis, j'aurai aussi le plaisir de retrouver Marie-Christine Mora, bénévole ici chez Vues et Voix, qui viendra nous présenter La Maison des Anges de Pascal Bruckner. Et puis, comme l'émission dure une heure, nous avons le temps pour d'autres rubriques. Alors, il y aura le classique de la semaine, il y aura aussi la page de littérature, et puis il y aura des nouvelles et des livres. Allez, c'est parti.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Gérald Cousineau.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous?
Ah, fort bien, la sieste était bonne.
Alors quand je dis que les livres audio vous en mangez, dans votre cas, c'est encore...
Je les dévore.
Ah oui, hein. vous en lisez combien à peu près?
Oh, je ne sais pas, un ou deux par semaine. Je travaille à temps plein, donc je lis un peu moins, mais quand même, un ou deux ou trois par semaine.
Et vous, Gérald, en tant que non-voyant, quand on dit vous lisez, parce que je veux dire, nous on dit jamais vous écoutez, hein, on considère que vous lisez des livres. Est-ce que ça vous semble correct comme
oui,
expression?
Oui, moi je lis avec mes oreilles.
C'est ça, exactement. Vous lisez avec les oreilles. Et là, vous nous proposez aujourd'hui un livre lu avec ses oreilles. D'ailleurs, tiens, ça ferait un joli titre d'ailleurs. Oui, je vous remercie de me l'avoir suggéré. Bon. Ça pourrait faire le titre d'une nouvelle rubrique. Les livres lus avec les oreilles. Ah, je trouve ça beau. Bon. Je trouve ça bon, Gérald. D'accord, comment je vous dois?
J'ai un copyright. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, je vous enverrai un chèque, d'accord. Gérald, vous nous parlez du nouveau livre de Yasmina Kadra.
Je ne sais pas si c'est le nouveau, parce que ce monsieur écrit à un rythme infernal.
Ah oui?
Le livre « Les anges meurent de nos blessures » a paru en 2013. Bon, les gens qui connaissent bien Kadra connaissent sa fameuse trilogie « Les hirondelles de Kaboul »,« L'attentat »,« Les sirènes de Bagdad ». Il est célèbre maintenant. Cet ancien militaire est devenu écrivain et est maintenant célèbre mondialement. Alors, « Les anges meurent de nos blessures », ça se passe évidemment en Algérie. Alors, nous avons un narrateur dont la vie va graviter autour de la boxe et, je dirais, autour de trois femmes, Nora, Aïda et Irène. Mm-hmm. Alors, donc, ce monsieur vit dans une misère noire, dans un bidonville de Sidi... Mm-hmm. Oh mon Dieu, je pense parce que j'ai oublié le nom complet, là, Belle Abbesse, Sidi
oui,
Belle Abbesse. Voilà, pas très, très loin d'Oran.
On a rarement vu des boxeurs vivre dans l'opulence.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, le début est assez difficile. C'est mm-hmm. le cas pour lui aussi. Donc, ce monsieur vit dans une misère noire. Mais, encore là, Kadra excelle à peindre ce genre de milieu. C'est jamais très rose, l'univers de Kadra. Hein. Mais là, c'est vraiment très bien peint, très bien rendu, cette misère du peuple algérien, ce racisme flagrant dont il est victime de la part, évidemment, des colonisateurs français.
Dans les années 20, excusez-moi.
Oui, parce que j'ai oublié de dire que le narrateur, qui d'ailleurs a 93 ans, quand commence le récit, okay. est né en 1910. Donc, okay. ça donne une idée de sa longue vie. Mm-hmm. Donc, il est né en 1910 et un jour, tout à fait par hasard, il se fait remarquer d'un entraîneur de boxe parce que ce monsieur est candide. Oui, il a une candeur désarmante, mais il a et ça c'est une bonne chose pour lui, il a un direct du gauche foudroyant. Et ça va être son gagne-pain. De 1932 à 1937, il va boxer, il va accumuler les succès, mais en même temps, c'est un homme qui n'a pas de chance avec les amours de sa vie. Nora lui échappe, Aida lui échappe, Irène, le troisième amour de sa vie, va être assassiné, oui, dans des conditions sordides. Il va deviner qui est l'assassin, il va aller le voir, il va le tuer, mais en fait, le monsieur qu'il pense avoir tué va survivre, mais il s'est trompé. Il s'est trompé de personne. Le vrai assassin va être pris par la jute. Donc, c'est vraiment un enchaînement de drames, de bonheur, de drames, de bonheur. Et à un moment donné, croyant qu'il a tué la mauvaise personne, eh bien, enfin l'assassin d'Irène, il va se saouler dans un bordel. Il va tuer un client. Il va être condamné à mort. Et là, je ne vous dirai pas ce qui se passe. Mais de toute évidence, il ne coûtera pas la guillotine puisqu'il vit jusqu'à 93 ans. Alors, je ne donne pas la fin. Mais c'est un roman que j'ai bien aimé. Peut-être pas aussi prenant pour moi, là, je dis bien pour moi, que L'Attentat, qui était assez dur à lire. Mais quand même, je pense que quand on aime Kadra, on va aimer ce roman-là. C'est très prenant quand même. Et encore une fois, c'est peint avec un réalisme terrible, je dirais terrible. On est là, on est vraiment là avec lui, on est vraiment là avec le petit peuple d'Oran, et parce que c'est peint de façon réaliste, mais en même temps, on sent que le narrateur, évidemment, a un penchant pour ces gens-là, et encore une fois, le racisme dont ils sont victimes est tellement flagrant qu'on ne peut s'empêcher de prendre pour ces gens-là qui, hélas, ne s'en sortent pas ni au plan matériel, ni en amour, et c'est le cas, évidemment, de ce narrateur, dont j'ai oublié de dire aussi qu'il s'appelle, qu'on le surnomme Turambeau, une déformation d'Arthur Rimbaud. Et lui, il croit que c'est le nom de son village natal, mais non, pas du tout. C'est que Turambeau, c'est en fait Arthur Rimbaud, mais lui est un alphabète, donc il croit que c'est le nom de son village natal. Alors, toute sa vie, on l'appelle Turambeau, jamais de son vrai nom.
J'ai l'impression que c'est un roman qui est écrit comme un combat de boxe, parce que toutes les critiques que j'ai pu lire à droite et à gauche ont dit les situations claquent, les mots fusent. On a vraiment l'impression que c'est une suite de...
En fait, l'auteur nous assène des directs, l'un après l'autre.
C'est ça, exactement.
Parce que dès qu'il y a un beau passage, là on retombe dans le côté dur du roman, la boxe. Parce qu'au vrai sens du mot, ce monsieur va manger beaucoup de coups de poing sur la gueule, mais il est déterminé, il dit quelque part que son ambition est aussi grande que sa faim. Malheureusement, son ambition va le mener très haut, c'est vrai, mais il va redescendre très bas aussi, très, très, très bas.
Est-ce que c'est un livre que vous recommandez aux âmes sensibles ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils évitent ou...
Non, pas du tout. Moi je pense que les gens qui s'intéressent à l'histoire, par exemple, devraient lire ce roman parce qu'encore une fois, on ne connaît pas beaucoup l'Algérie du début du 20e siècle. Et on connaît plus, bien sûr, la période très dure de la guerre d'Algérie. Mais c'est un des rares romans que j'ai lus dont l'action se déroule au début du 20e siècle. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine. Et aussi, on peut penser à Camus aussi. Certains passages m'ont fait penser à Camus, Oran, par exemple, où on pense que la peste se situe, la peste de Camus. Là. Alors, je pense que des lecteurs de Camus vont peut-être s'y retrouver. Et ceux qui aiment l'Algérie, malgré toutes les vicissitudes que ce pays a traversées depuis belle lurette. Là.
Oui, justement, là, je lis dans une critique sortie dans L'Express, le 23 septembre 2013, dureté, pureté, comme son personnage. Oui. Le roman balance entre les deux. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je parlais de candeur, on pourrait parler de pureté. Est pur, mais il s'est trompé d'univers, finalement. Et ses anges veillent sur lui, mais à un moment donné, ses anges vont comme l'abandonner.
Voilà et on nous dit que ça révèle bien des rêves, bien des tensions. La rivalité notamment entre berbères et arabes.
Oui.
Et puis le poids de la culture européenne. Et puis surtout, le sort des femmes.
Ah oui, évidemment. Lui, il a comme troisième amour et il s'amourache d'une... Non, s'amourache, c'est un peu péjoratif. Il tombe carrément amoureux d'une Française. Et ce sera le dernier amour de sa vie, mais le plus tragique, finalement.
Gérald, si vous me le permettez, je voudrais lire un court extrait de ce roman dont je rappelle le nom, « Les anges meurent de nos blessures » de Yasmina Kadra. Kadra, je vous l'appelle, c'est K-H-A-D-R-A.
Un nom de plume, comme on sait.
Oui, absolument. Alors, je vous lis cela. Donc, ça donne ceci. « Je lui demandais comment elle faisait pour supporter ces déboires qui s'accrochaient à elle comme des revenants. » Elle me répondait d'une voix limpide, « On fait avec. » Le temps s'arrange pour rendre les choses vivables. Alors on oublie et on se persuade que le pire est derrière soi. Bien sûr, le gouffre nous rattrape au détour d'une solitude et on tombe dedans. Curieusement, dans la chute, on éprouve une sorte de paix intérieure. On se dit « c'est ainsi et c'est tout ».
Oui.
On pense aux gens qui souffrent et on compare nos douleurs. On supporte mieux la nôtre après. Il faut bien se mentir. On se promet de se ressaisir, de ne pas retomber dans le gouffre. Vous retrouvez tous ces mots que vous avez appréciés?
Oui,
Gérald.
On est dans l'ordre de la survie ici.
Oui,
hein.
C'est ça.
Survie et... Bon, jusqu'au lendemain, qu'est-ce qui va arriver? On n'y croit pas beaucoup, mais on tient le coup quand même, au cas où, au cas où, oui.
Gérald Cousineau, je vous remercie beaucoup. C'était votre première participation à cette émission à Livre Découvert pour la saison 2014-2015, mais
c'est
pas la dernière.
Une heure maintenant, bravo.
Oui, ça y est. Alors, on a commencé ça la semaine dernière,
oui.
Et puis cette semaine, on remet ça. Ben, je pense que les gens apprécient bien, parce que, comme vous pouvez le remarquer, on prend un peu plus notre temps, puis
oui.
Il y aura plus d'extraits. On va parler de plus de nouveautés, mais aussi de classiques, par exemple, avec mon prochain invité, on va revenir en arrière et on va aller se plonger dans l'œuvre d'Anne Hébert qu'on
oui.
oublie peut-être un petit peu trop.
C'est vrai.
Avez-vous lu beaucoup de Anne Hébert?
Oui, il fut un temps où je lisais beaucoup Anne Hébert. J'avoue ne pas l'avoir lu depuis quelque temps, mais on ne peut pas l'oublier, non.
Non, et je suis sûr.
De la littérature québécoise.
Et je suis sûr qu'on va vous donner envie de replonger dans les vagues littéraires.
dans le torrent
littéraire d'Anne Hébert. Merci beaucoup, Gérald Cousineau. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
À vous aussi, au revoir.
Merci, au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et l'invité spécial à cette émission, nous venons d'en parler, c'est malheureusement pas Anne Hébert, bien évidemment pas, mais Michel Langlois. Michel, lorsqu'on parle de vous, bonjour d'abord.
Bonjour, bonjour.
Je suis tellement contente de vous recevoir.
Merci.
Ça a été un petit peu, il faut le dire, presque au pied levé. Parce que malheureusement, j'attendais quelqu'un qui m'a fait faux bond. Et comme on devait se voir de toute façon d'ici quelques semaines, je vous ai vite appelé, je vous ai dit, Michel, si je vous dis, la prochaine, venez-vous, il m'a dit oui.
Et j'étais ravi.
Et je vous en remercie infiniment. Et si je vous ai fait venir, c'est que je me suis dit, bon, on va juste quand même rappeler que votre nom est associé à d'autres noms de cinéastes. Je pense à Léa Paul, dont vous avez scénarisé déjà des livres. Vous avez vous-même, des films, vous avez vous-même scénarisé et réalisé Cap Tourmente,
oui,
qui
oui.
à l'époque avait révélé un certain Roy Dupuis.
Dupuis.
On s'en souvient bien, qui était tout jeune.
Oui.
Et on se disait, mon Dieu, avec des yeux comme ça, celui-là, il va aller loin. Et puis, je vous ai appelé parce que, et là, je m'en veux terriblement, et je vous l'ai avoué au téléphone, je me suis dit, mais où étais-je, sur quelle planète étais-je l'an dernier pour avoir raté la sortie de ce documentaire, et pourtant dont finalement beaucoup de journaux ont quand même parlé, j'ai lu beaucoup de choses, ce documentaire que vous avez réalisé autour d'Anne Hébert, qui s'appelle Anne des 20 jours.
Anne des 20 jours. Il est sorti en fait au mois de mai, hein, le 9 mai, le jour de mon anniversaire, à Aix-en-Trice. Il est passé après à la télévision.
Oui.
Peu de temps à l'affiche, trois jours.
Oui,
c'est
Dieu.
Pas beaucoup. Maintenant, c'est comme ça, surtout pour ce genre de film. C'est un projet que je trimballais depuis mes 30 ans. J'ai connu Anne Hébert, j'avais 30 ans.
Et, dans quelles circonstances vous vous êtes connu?
Je l'ai connu à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans une auberge, l'auberge L'Été de la famille Desgagnés, où Anne était venue un jour s'informer pour les prix d'une chambre ou de la pension. Et je l'ai reconnue. J'avais déjà une passion pour elle. Ça avait été mon premier choc littéraire à l'âge de 16 ans. À travers sa poésie, Le tombeau des rois, et ça m'est tombé dans les mains à 16 ans, et je me suis dit, mon Dieu, on peut écrire comme ça. Donc, 15 ans plus tard, ou à peu près, je la vois arriver dans cette auberge. Elle était très belle, comme vous savez, reconnaissait.
Oui, oui, oui.
Et je lui ai dit, mais c'est moi qui l'ai reçu. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes Anne Hébert? Elle a dit, oui, oui, bien sûr. Donc, je peux vous serrer la main, oui. Alors, je lui ai promis que si elle s'installait, si elle venait s'installer dans cette auberge, elle n'allait pas le regretter, que moi, je me portais garant de son séjour, de son bien-être. Elle est venue d'abord pour une semaine, puis elle est restée 20 jours. Donc, d'où le titre
d'où
du
le
film,
titre.
Anne des 20 jours. Et on a continué, s'est développé un peu une amitié. Je lui ai écrit d'abord, elle m'a répondu, elle me répondait toujours. Quand ses livres sortaient, elle m'a envoyé avec une dédicace. Il y a une correspondance assez volumineuse. Mais le temps faisant, les liens se sont un peu défaits par ma faute, au fond. J'en parle beaucoup dans le film. Parce que moi, quand j'écrivais à cette personne pour qui j'avais énormément d'admiration, ça me prenait deux semaines d'écrire une lettre, tu vois?
Oui.
Tu fais des brouillons, tu veux pas dire des conneries, tu veux pas faire de fautes, tu veux dire des choses intelligentes. Oui. Et elle me répondait gentiment, mais elle devait écrire ça, quoi, sur le coin de la table,
oui,
c'est tu vois?
Ça. Oui, donc, oui.
Donc, ouais. C'est devenu un peu une charge de lui écrire les choses. Puis ma vie a pris un autre tournant. J'ai commencé à travailler dans le cinéma. Et puis le temps s'étire. Il y a des trous énormes. Et ça devient difficile de renouer. Et puis, de fil en aiguille, on s'est un peu perdu de vue. Et c'est ça que j'essaie d'exprimer dans le film, c'est-à-dire... À la fois l'admiration que j'avais pour elle, bien sûr, mais du point de vue du jeune homme que j'étais, qui a aussi suivi son œuvre au fil des parutions, et cette espèce de regret d'avoir laissé passer cette chance-là. Mm-hmm. Mais en même temps, je ne voulais pas devenir un adepte, tu vois.
Idolâtrer bêtement quelqu'un.
Oui, tu vois, je voulais bien avoir un rapport d'amitié, mais je ne voulais pas être, comme je sais, des gens qui vont, être en admiration devant Yourcenar ou des choses comme ça. J'avais peur de ça. Mais... la vie nous a séparés. Mais
vous ne vous êtes jamais séparés de son œuvre.
Non.
Vous avez à peu près évidemment tout lu. Qu'est-ce qui vous a marqué beaucoup? Je veux dire que c'est une question un petit peu idiote parce qu'il y a tellement de choses dans l'univers de Anne Hébert. On pourrait poser la question à plein de gens. Puis il y en a qui diraient Kamouraska, il y en a qui diraient Les Fous de Bassan, il y en a qui diraient... Mais plus largement, qu'est-ce que vous retenez de l'œuvre d'Anne Hébert?
Mais moi, je peux emprunter ses paroles même, parce qu'elle dit... moi, je suis surtout fasciné par sa poésie, qui est présente dans ses romans, d'ailleurs. Ouais. C'est toujours un recours à la poésie, même dans les histoires qu'elle raconte. Et elle dit, écrire de manière poétique, c'est chercher la lumière. Elle dit, pour beaucoup de gens, écrire de manière poétique, c'est écrire d'une manière obscure. Mais pour moi, c'est chercher la lumière. Et ce qui me frappe toujours dans l'œuvre d'Anne Hébert, c'est cette quête de la lumière.
Ouais.
Et dans des histoires parfois très sombres, la plupart du temps sombres, que ce soit Kamouraska ou Les Fous de Bassan ou Le Torrent, Le Torrent est une histoire terrible. Pourtant, quand on lit Le Torrent, si dur que soient les rapports, la mère, cet enfant qui devient sourd parce que sa mère l'a battu, etc., On referme le livre et on en garde une impression de lumière. Quelque chose de lumineux a eu lieu, même en parlant de choses.
À quoi est-ce qu'on peut attribuer ça? C'est au niveau de l'écriture, c'est au niveau de l'image, c'est au niveau de...
C'est au niveau du langage. Oui. C'est-à-dire qu'elle arrive à combiner un réalisme descriptif avec de la poésie, ce qui est très difficile à faire. Là, j'avais relu sur votre demande les chambres de bois.
Oui, mais dont on va parler en seconde heure, en seconde demi-heure. Mon Dieu, c'est comme si l'émission durait 2 heures. Non, pitié, déjà 1 heure. Mais en seconde demi-heure, on va revenir parce que j'ai maintenant une nouvelle rubrique qui s'appelle Le classique de la semaine et j'ai choisi de revenir sur ce texte-là.
D'accord.
Alors, on va garder ça pour tout à l'heure. Mais si je vous parle de quelques œuvres signées Anne Hébert, par exemple, L'enfant chargé de songes.
Oui. Qui fait partie des œuvres plus tardives.
Plus tardives, c'est ça. Évidemment, dès l'instant que je vous laisse ton micro, et là, je parle à nos auditeurs, c'est parce que tous ces livres-là sont disponibles en format audio, bien évidemment. Les enfants de Saba.
Oui, très beau.
Kamouraska, évidemment. Œuvre poétique. Poème pour la main gauche.
Oui.
Le premier jardin aussi, le torrent dont vous avez parlé et qui est là, et puis un habit de lumière.
C'est aussi magnifique.
Et puis évidemment, bon, quand on pense à Anne Hébert, on pense au Fou de Bassan aussi beaucoup. C'est quand même un titre qui reste ancré, imprimé, enraciné en nous. Bon, Kamouraska aussi, d'ailleurs, mais tellement d'autres. Ce que je vous proposerais, c'est qu'on va écouter Daniel Mille, que vous connaissez peut-être pas, qui est un accordéoniste français, un type absolument merveilleux. Et à un moment donné, dans un de ses disques, il avait créé une pièce qui s'appelait Les Fous de Bassan. Et ce que je vous proposerais, à un moment donné, c'est de rentrer sur cette musique-là et de nous faire la lecture d'un petit extrait des Fous de Bassan. Je vous rappelle que je suis avec Michel Langlois, qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Anne des 20 jours et qui est consacré à cette amitié que vous avez eue avec Anne Hébert.
Je me suis mis cela dans la tête, de vivre la tempête jusqu'au bout, le plus profondément possible, au cœur de son épicentre, semblable à un fou que je suis, jouissant de la fureur de la mer et m'y projetant, délivré de toute pesanteur comme un bouchon de liège. Transi sur mon rocher, dans mes vêtements mouillés, je m'égosille à crier dans un fracas d'enfer. Personne ne peut m'entendre et le cri rauque qui s'échappe de ma gorge me fait du bien et me délivre d'une excitation difficile à supporter. La mer déchaînée déferle sur la grève, se heurte au rocher, rejette une nuée de cailloux et de bouts de bois, des débris de toutes sortes. Je retourne me sécher, manger et dormir chez ma cousine Maureen. À chaque apparition, j'emprunte un nouveau pantalon, une nouvelle chemise dans la garde-robe du défunt de cette bonne vieille Maureen, et je retourne à mon poste sur le rocher. Maureen me crie que je suis fou et que je vais attraper mon coup de mort. Rien à faire. Il faut que je pleure et que je hurle, dans la tempête, que je sois transpercé jusqu'aux os par la pluie et l'embrun. J'y trouve l'expression de ma vie, de ma violence la plus secrète.
C'était Michel Langlois qui nous lisait cet extrait des Fous de Bassan sur la musique signée Daniel Mille, qui elle-même s'intitule Les Fous de Bassan. Michel, vous restez avec nous, Michel Langlois, parce que nous allons tout à l'heure aborder un classique parmi les classiques signé également Anne Hébert. Et je vous propose peut-être d'écouter une chanson que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Les Fous de Bassan. Et c'est signé par un garçon qui s'appelle Romain Didier.
Seul sous ma photo, seul sous mon abat-jour, je m'écris des mots d'amour. Quatre fois par mois, c'est mon anniversaire. Tout seul, je m'envoie des bouteilles à la mer. Je suis fou de Bassan, je pointe à la ligne, j'attends au bord des fenêtres maritimes. Je suis fou de Bassan, perdu sur l'île d'Ouessant, et je m'envoie des lettres anonymes. Je m'écris sans voix le soir quand le jour baisse, pour qu'on connaisse pas l'adresse de ma détresse. Bordeaux, Paris, Nantes, je m'écris tout en bleu, et je jette l'encre au fond du ventre et des yeux. Je suis fou de Bassan, je pointe à la ligne, j'attends au bord des fenêtres maritimes. Je suis fou de Bassan, perdu sur l'île d'Ouessant, et je m'envoie des lettres anonymes. Des aveux frileux dans des enveloppes timides, que je colle comme je peux avec mes yeux humides. Je m'écris à île sur des timbres à 2 francs. La mer est tranquille, baiser de l'île d'Ouessant. Je suis fou de Bassan, je pointe à la ligne, j'attends au bord des fenêtres maritimes. Je suis fou de Bassan, perdu sur l'île d'Ouessant, et j'attends ta lettre, Anne Denis.
Il s'appelle Romain Didier. Ben oui, nous aussi, on l'applaudit bien fort. C'était d'enregistrer un spectacle en Allemagne, ça. Ben oui, les Allemands sont fous de chansons françaises, et notamment de Romain Didier, qui chantait Les Fous de Bassan. Ce qui m'amène à remercier encore une nouvelle fois Michel Langlois d'être là. Je lui donne rendez-vous dans la deuxième demi-heure. Nous allons revenir, puisque le classique de la semaine, nous allons revenir sur Les Chambres de Bois d'Anne Hébert. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seil. C'est l'émission Au quotidien. Au quotidien, à chaque fois, je fais le coup. Non, on reprendra pas ça. Vous savez que je fais Au quotidien tous les matins. Alors, à force de dire ça tous les jours, pardonnez-la, elle est un peu énervée, la fille. Donc, c'est l'émission À livre découvert, mes amis. Et je vous retrouve d'ici quelques minutes.
Vous écoutez À livre découvert avec Clotilde Seil et ses invités.
Et oui, c'est l'émission Un livre découvert qui se prolonge deuxième demi-heure avec des rubriques que vous connaissez peut-être moins, comme par exemple le classique de la semaine. On va commencer avec cela, avec la bénévole de la semaine, Marie-Christine Morin, qui sera avec nous. Et puis, il y aura aussi la chronique de bouche à oreille avec une page de littérature, une page de lecture. Et nous finirons avec quelques nouvelles parutions. Et puis, quelques titres en rafale que je pourrais vous donner pour que vous alliez vous ruer au SQLA pour aller les chercher.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Alors, le classique de la semaine, j'ai gardé avec moi Michel Langlois, en vous rappelant que Michel, si vous avez raté la première demi-heure de cette émission, a réalisé un documentaire sur Anne Hébert, disons ça comme ça pour faire plus court, qui s'appelle Anne des 20 jours. Merci d'être resté avec nous, Michel.
Plaisir.
Je vous ai gardé parce que je me suis dit, quitte à parler d'Anne Hébert en première partie et quitte à aller vers cette rubrique qui s'appelle le classique de la semaine, pourquoi ne pas se replonger dans un des livres de Anne Hébert. et vous avez choisi Les Chambres de bois.
Les Chambres de bois, paru en 1958. C'est en fait le premier roman d'Anne Hébert.
Ah oui.
Parce que Le Torrent est une nouvelle, donc avec d'autres nouvelles regroupées sous le titre du Torrent, il y avait eu des poèmes. Et puis Les Chambres de bois est le premier roman, vrai roman, si on veut.
Alors, qu'est-ce qu'on... De quoi ça cause, les chambres, les chambres de bois? Non, mais parce que je sais que ce n'est pas un livre facile, là, déjà. Là.
Mais je ne dirais pas que c'est un livre difficile. C'est, okay. C'est un livre dont l'argument importe peu. C'est-à-dire que l'histoire est très simple. C'est une fille qui fait un mauvais mariage au départ avec quelqu'un qui ne l'aime pas, qui ne peut pas aimer. Le personnage de Michel est un type gâté par la vie, artiste raté, etc., qui ne sait pas aimer. Et elle qui a besoin d'amour, qui a besoin d'en donner, et comme dans l'hiver de cet amour-là, jusqu'à ce qu'elle décide, pour ne pas en mourir, de tout envoyer promener et de trouver la liberté. Mmh. On peut, si on veut, si on pense à la vie d'Anne Hébert, comparer ça au Québec.
Tu vois? Ah oui?
Anne Hébert va quitter le Québec dans ces années-là. Elle va commencer à publier au Seuil. Bon. Et c'est comme le personnage de Michel serait comme, d'après moi, je ne prétends pas faire une analyse profonde, mais d'après moi, serait un peu une métaphore du Québec, de l'âme embourbée et de cette jeune femme qui va prendre son envol vers l'ailleurs. Donc, ce n'est pas une critique du Québec, c'est un...
Non, mais enfin, quand vous parlez d'âme embourbée, quand même.
Oui, oui. Ce Québec encore figé dans la religion, dans le catholicisme, dans peu d'ouverture sur le monde, en fait. Donc, moi, je l'ai un peu lu comme ça, en le relisant, parce que je l'ai relu pour vous, Clotilde. Et j'ai été agréablement surpris, parce que il y a cet art d'Anne Hébert à l'œuvre toujours, c'est-à-dire le plus grand réalisme mêlé à la plus haute poésie pour créer quelque chose de très efficace qui va toujours à l'essentiel.
Oui.
Elle va aussi bien parler de la suie qui tombe des cheminées d'usine, mais en même temps, elle se trouve à parler des noirceurs de l'âme et vice-versa. Elle va être capable aussi de parler... du cœur souffrant ou obscur de quelqu'un par des références très simples au paysage ou à ce qui entoure cette histoire.
Autrement dit, est-ce que vous avez eu l'impression de l'avoir redécouvert, ce livre?
Oui, je l'ai redécouvert. Ouais. Je l'avais lu jeune, trop jeune, en fait. C'est un livre peut-être plus difficile que les romans qui suivront.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Quand en ce moment, il y a ce débat sur la littérature. On dit qu'on ne fait pas assez lire nos jeunes et surtout qu'ils ne lisent pas assez nos classiques, dont, évidemment, les classiques d'Anne Hébert. Est-ce que vous trouvez... qu'on est peut-être trop jeune quand on demande à des étudiants du cégep de lire du Anne Hébert. Est-ce que ça mérite qu'on soit un petit peu plus adulte, un peu plus mature?
Je crois, je pense. Je pense qu'il faut avoir, pour vraiment bien aborder Anne Hébert, il faut avoir dépassé l'anecdote. Il faut avoir dépassé la quête de l'anecdote. Oui. Il faut chercher le sens profond.
Oui.
Il faut avoir le goût d'un regard poétique sur les choses. Quand je dis poétique, je ne veux pas dire éthéré, je veux dire ancré dans la réalité des choses. Et je pense qu'effectivement, de lire Les Chambres de bois trop jeunes, ça n'apporte rien.
Non, c'est ça.
Il y a des œuvres plus abordables. Je crois que les jeunes seront peut-être plus attirés ou plus à l'aise avec Les Fous de Bassan.
Bien sûr.
Ou même Kamouraska.
Même Kamouraska, oui, c'est certain.
Ouais.
Oui, parce que là, effectivement, de toute façon, tantôt, en plus, je vous ai posé une question tellement idiote. C'est vraiment pas le genre de livre. On peut dire, bon, alors, c'est quoi l'histoire? C'est pas ça du tout. On est vraiment dans une ambiance.
On le résume, on perd tout. Tu vois, c'est ça.
Exactement.
Voilà.
Mais là, par contre, ce qui serait intéressant, et c'est ce que vous allez faire, vous avez accepté de le faire, ce serait de nous lire le début du livre. Je vous rappelle que le classique du jour, on parle là de les chambres de bois de Anne Hébert et le début du livre sera lu par Michel Langlois.
Alors, ceci dit, je lis un court extrait pour vous donner le ton.
Juste le goût d'aller se replonger là-dedans.
D'accord. C'était au pays de Catherine, une ville de hauts fourneaux flambant sur le ciel, jour et nuit, comme de noirs palais d'apocalypse. Au matin, les femmes essuyaient les vitres des maisons, les patines des feux trop vifs de la nuit. Les fenêtres de Catherine étaient claires. Le carrelage de la cuisine luisait comme un bel échiquier noir et blanc. Toute transparence refaite à mesure, Catherine ne s'était jamais laissée devancer par le travail et le temps. Depuis la mort de la mère, n'y avait-il pas trois petites sœurs après elle qu'il fallait nourrir, laver, soigner, habiller et repriser, tandis que le père se retirait en sa solitude. L'année de la mort de la mère, il y eut un été si chaud et si noir que la suie se glissait par tous les pores de la peau. Les hauts fourneaux rivalisaient d'ardeur avec le feu de l'été. Sous l'abondance d'un pain aussi dur, des femmes se plaignaient doucement contre la face noire des hommes au désir avide.
Oh, quelle écriture! Quelle écriture!
Oui, parce que je trouve que en trois petits paragraphes, on a tout un monde. On a une ville ouvrière, minière, on a des enfants laissés à eux-mêmes, on a les hommes, les femmes, le désir, la saleté.
C'est incroyable.
C'est ce que j'appelle cette interpénétration de la poésie et d'un regard très réaliste, au fond, aussi, sur, entre autres, sur la vie ouvrière. Ouais.
Je voudrais rappeler à nos auditeurs que parmi les œuvres de Anne Hébert qu'on retrouve au SQLA, vous pouvez trouver L'enfant chargé de songes, Les enfants de Saba, Les fous de Bassan, Kamouraska, œuvres poétiques. Le titre dont nous venons de parler à l'instant, Les chambres de bois, mais il y en avait d'autres aussi, le torrent qu'on avait nommé aussi. Donc, poème pour la main gauche aussi, Le premier jardin et Un habit de lumière. Voilà, ce sont tous les titres qui sont enregistrés pour vous au SQLA. Et comme on a un petit peu de temps, Michel, on connaît le cinéaste, on connaît le scénariste, on connaît le documentariste, on connaît un petit peu moins le romancier. Il n'y a pas un roman dans l'air?
Oui, j'avais commencé un roman qui s'appelle La chute des corps.
Et pourquoi j'avais commencé? Parce qu'il
J'ai commencé, je me suis arrêté cet été.
C'est vrai?
Oui.
Parce qu'avec la belle voix que vous avez, moi, je me suis dit, ça y est, je vais lui dire non seulement quand vous l'avez fini, on va pouvoir le lire, mais c'est vous qui allez le lire. Alors,
Je suis habitué, dans mes films, il y a beaucoup de voix off et c'est moi qui
Mais oui, c'est ça, Ouais. Mais là, ce que je voudrais, c'est que vous vous remettiez au travail, mon petit Michel.
Oui, je vais m'y remettre, là. Et j'ai même un projet de film de fiction, en fait, si on me laisse faire, qui s'appelle « Plus en moi que moi ».
Plus en... Ah, on le retrouverait là. Ah, voilà des bonnes nouvelles. Écoutez, je suis absolument ravie, Michel Langlois, que les gens aient pu vous entendre nous parler si bien d'Anne Hébert. Encore une fois, vous savez, on aurait pu passer des heures et des heures, bien évidemment, il y a toujours... Mais merci infiniment. Et où est-ce qu'on... Si on voulait voir le film maintenant, comment est-ce qu'on peut faire,
Très
Anne, des 20 jours?
Voir. Je pense qu'il faut essayer en ligne avec Accentrice. C'est le seul canal possible. D'après moi, de diffusion actuellement. Il n'y a pas de DVD sur le marché.
Bon. Et puis, on espère qu'un jour, peut-être, un canal de télévision...
Il est passé une fois à TV5. Mm-hmm. C'était à la fin mai.
Ce serait bien qu'il repasse. À qui faut écrire.
À Pierre Gagne.
Merci infiniment, Michel Langlois, et soyez le bienvenu quand
Merci
vous voulez à cette émission.
Reçu.
Je vous en prie, au revoir. Ouais.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
La bénévole du jour, Marie-Christine Morat, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Et comment allons-nous?
Mais très bien, Clotilde.
Rapprochons-nous un petit peu de ce
ça,
micro, parce que
idée.
Déjà, vous n'avez pas une grosse voix. Mais alors, si en plus, elle se tient loin derrière. Marie-Christine, bel été?
Très bel été.
Vous avez lu beaucoup?
Moyen.
À voix
basse,
à voix basse,
oui, pour changer un peu. À voix basse.
C'est vrai, vous n'êtes pas venu beaucoup, vous avez un petit peu déserté les cabines de chez Vues et Voix cet été, vous?
Un petit peu, je ne suis pas partie, disons que c'est la France qui est venue à moi, alors je suis restée là pour l'accueillir, et du coup,
Et alors là, on a fait la visite, Charlevoix,
et
Québec,
et
tout le bazar, les baleines de Tadoussac.
Et d'où à Montréal.
Alors, de quel livre, Marie-Christine, allez-vous nous parler? Un livre que vous avez lu, bien évidemment.
Mm-hmm, donc, livre de Pascal Bruckner, La Maison des Anges.
Qui vient donc d'arriver, il y a, je pense, un mois ou deux seulement sur les tablettes, si j'ose dire, du SQLA.
C'est bien possible.
De quoi s'agit-il?
Alors, c'est un roman, comment on va dire ça? Un roman aussi étonnant.
Eh bien, merci beaucoup Marie-Christine, c'est tout le temps. Non, ça fait toujours beaucoup de niaiseries comme ça l'une et l'autre. C'est juste pour la mettre à son aise.
Heureusement que je le suis maintenant. La première fois, je ne l'étais pas du tout, mais maintenant c'est bon. Je suis rodée. Alors, je disais donc que c'est un roman aussi étonnant que détonnant. De par le thème abordé et puis également par le ton inhabituel choisi par Pascal Bruckner. Alors c'est d'abord un roman amusant et puis de plus en plus dur, acide même, très acide.
Autrement dit, les premières pages, on s'attend à quelque chose d'un peu léger, puis plus on avance et plus on s'aperçoit que oups.
En fait, les premières pages, on ne sait pas à quoi on s'attend, mais ça c'est assez fréquent hein, quand on est bénévole à vue et voix.
Oui.
Après, quand on rentre effectivement dans le corps du texte, là on se dit oulala, ça va devenir très sombre cette histoire-là. Et en effet, ça l'est. Puisque c'est l'histoire d'une déchéance, une descente aux enfers d'un homme qui, justement, souhaiterait pourtant éradiquer la déchéance humaine.
Ok.
Étonnant, non ?
Oui.
Donc, de quoi s'agit-il exactement ? Mais en fait, l'auteur Pascal Bruckner a choisi un héros, Antonin, qui a 29 ans, qui travaille dans l'immobilier de luxe à Paris. Uh-huh. Donc là, ça m'interpelle forcément.
Ben oui.
Et tout semble indiquer que ce brave Antonin soit parti pour une belle et longue carrière. Seulement voilà, impondérable, toute sa vie va basculer en quelques minutes, alors qu'un duo de clochards lui fait rater une vente dans un quartier huppé de la capitale, où leur présence était d'ailleurs tout à fait incongrue, puisque l'auteur choisit d'écrire « telle une verrue sur un beau visage ».
Oui.
Donc, vraiment une présence incongrue. Oui. Et voilà, à partir de là, le ton est donné. Dès ce moment-là, les vieux démons d'Antonin refont surface. Mm-hmm. Alors d'abord, son souci de la performance, son trouble obsessionnel et compulsif de la propreté, non pas de la pauvreté, lapsus révélateur.
Ah oui, j'ai pas osé vous le dire.
C'est ça. Ouais. En fait, ce brave Antonin, c'est un maniaque, mais vraiment, oui, c'est un toc, hein, de la propreté.
Okay.
Et en plus, il a une personnalité quand même fragilisée par l'éducation que lui ont donnée ses parents. Alors, ses parents qui étaient deux postes 68ards, jamais sur la même longueur d'onde, toujours à se crêper le chignon, l'un communiste et l'autre féministe acharné. Bref, avec ce qui lui arrive, donc Antonin se met subitement à décider de nettoyer Paris de toute la vermine humaine.
Oh boy.
Il y a affaire, c'est sûr.
Oh boy. Oui.
Et dès lors, Pascal Bruckner nous entraîne dans les bas-fonds de la ville lumière. Et son héros quitte sa vie bien rangée et devient un monstre virevoltant et sévissant contre les plus démunis.
Oui.
Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que l'écriture est rapide, prenante, mais franchement, néanmoins, pesante. Et c'est pour ça que je disais que ça devenait un roman dur et très acide. Parce que Pascal Bruckner use de précision lorsqu'il s'agit de décrire l'horreur de la misère, la déchéance humaine des sans-abri, des clochards, la cruauté de la mafia des Roms, etc., etc.
Les Misérables, à côté, c'est du romantisme ou...
C'est pas pareil.
Oh, c'est pas pareil.
C'est ça, on va dire, non, c'est non, pas
mais,
pareil.
Bah, écoutez, là, les sans-papiers, tout ça, pas bon.
Non, puis non. Là, c'est, ben, voilà, c'est quand même quelque chose aussi d'actualité. C'est quelque chose de très vrai, c'est quelque chose de contemporain.
Non, c'est
vrai
ça.
Que Paris, bien sûr, c'est la plus belle ville du monde.
Ouais.
Mais,
là,
mais quand même, hein, on sait
voit
aussi
ce qu'il y a de plus laid.
Voilà, on en voit ce qu'il y a de plus laid. Bref, Pascal Bruckner fait un tableau très, très, très noir de tous les laissés-pour-compte de la société. Et vraiment, tout y est. Il y a les odeurs, il y a la maladie, il y a les pires humiliations. Donc vraiment, âme sensible quand même, là.
Ah, mais s'abstenir à ce point-là ?
S'abstenir, oui. Je pense que c'est vraiment un livre qui peut déranger. Et ce, d'autant que l'auteur joue volontiers la provocation.
Okay.
Ça, il n'y a pas à en douter. Alors, premièrement, parce que son héros est absolument odieux, ça on l'aura compris, même si quand même il témoigne parfois de quelques bribes d'émotion. Mais parce qu'en plus d'être abominable, il est carrément pathétique, ce pauvre Antonin. D'abord parce qu'on ne s'improvise pas tueur, comme ça, du jour au lendemain. Et de fait, il rate parfois ses coups. Et alors là, on le voit qu'il tente de s'en sortir en sombrant encore plus profondément dans la bassesse. Mais néanmoins, il prépare longuement ses coups. Et là encore, Pascal Bruckner excelle dans la description de la perversité. C'est absolument terrible.
Ok, d'accord.
Et d'ailleurs, rien n'arrête cet auteur. On voit que son héros va jusqu'à feindre de sympathiser avec ses futures victimes pour mieux les duper. Et il ira même encore plus loin en se proposant notamment d'œuvrer à la Maison des Anges, d'où le titre du livre, qui est un établissement à vocation sociale dirigé par l'improbable Isolde de Hauteluce,
oui, d'accord. J'en
conviendrai, qui est une émule de Mère Teresa, qui va bouleverser Antonin autant qu'elle le perturbe, le séduit et le rebute. Et là, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est que Pascal Bruckner attire notre attention sur l'attitude de tout un chacun quant à la misère humaine. Mais il nous amène aussi à réfléchir sur le monde de la charité et notamment des organisations humanitaires. Alors là, on peut se dire que peut-être il a quelques comptes à régler, qui sait, parce que Pascal Bruckner a quand même été membre du conseil d'administration d'Action contre la faim.
Tiens donc, justement.
Voilà.
Auriez-vous un petit extrait, cher ami, parce que vous qui aviez peur
de ne rien avoir à dire, vous nous avez pété
2 minutes bien comme il faut, mais ça fait rien, il nous reste un petit peu de temps pour un petit extrait. Marie-Christine Mora va nous lire un extrait de ce livre dont elle nous parle aujourd'hui.
Ok. On ne passe pas facilement du statut d'empereur des arts ménagers à celui d'exécuteur des basses œuvres. Son obsession, toutefois, le rattrapait. Antonin voyait dans ses rêves des silhouettes hagardes, des morts vivants qui jaillissaient des trottoirs et déferlaient par vagues jusque chez lui pour venir le chercher. Il continua à s'informer, accumula les statistiques. Paris comptait 10 000 sans-abri. Leur espérance de vie ne dépassait pas 48 ans, 80 pour le reste de la population. Il en mourait chaque année 350, de froid ou d'épuisement. L'hiver les fauchait par hypothermie, l'été par déshydratation. L'alcool faisait le reste. Cette décimation ne suivait aucune logique, liquidait les innocents comme les coupables. Antonin se mit au sport de façon assidue pour se transformer en machine à tuer. Il s'inscrivit à un cours de karaté, endura les coups, les ecchymoses, les doigts retournés. Il courait parfois 2 ou 3 heures, traversant Paris du nord au sud, notant d'un coup d'œil les agglomérations de miséreux, les perdants solitaires qui crevaient dans leur coin. Il sortait de ses marathons dans une forme étonnante, sa haine décuplée.
Voilà, Marie-Christine Mora, bénévole chez Vues et Voix, qui venait nous parler et nous lire un extrait du plus récent roman de Pascal Bruckner, Bruckner, qui s'intitule « La maison des anges ». Je vous dis à bientôt, Marie-Christine, ou
Mais
est-ce que c'est beaucoup
oui,
trop de travail
Clotilde.
Non, vous aimez ça.
Non, j'adore.
Parce qu'en plus, c'est vous qui vous êtes tapé, le mot n'est pas trop fort, le chardonneret quand même.
Oui, le mot n'est pas trop
pages.
Fort.
Hein, à voix haute, c'est pas mal. Au revoir,
chapitre
Marie-Christine.
Au revoir.
De bouche à oreille. Une page de littérature.
Ben oui, c'est taper le chardonneret. Parce
un
que
verre de chardonnay, je veux bien.
Le chardonnay, c'est pour bientôt à la sortie de cette émission. Je vous rappelle que Clotilde Seille et ses invités sont toujours en studio pour vous présenter l'émission à livre découvert. Et c'est une nouvelle rubrique que j'ai lancée la semaine dernière. Ça s'appelle « De bouche à oreille », la page de littérature et de lecture. Il s'agit simplement d'entendre la version originale du tout début d'un livre qui vient juste de se retrouver au SQLA. Et j'ai choisi aujourd'hui « Pomme S » de Éric Plamondon. Écoutez, une histoire tellement compliquée que j'irai même pas essayer. Je vais passer une heure à vous raconter tout ça, mais il faut savoir que Pomme S conclut la trilogie 1984 et le périple américain de Gabriel Rivage. Entamé dans Hongrie Hollywood Express, sorti en 2011, qui met en scène Johnny Weissmuller, athlète olympique et premier Tarzan du cinéma parlant. Et là, on fait tous « Oh !» Bon, d'accord. Et ensuite, il y a eu Mayonnaise, en 2012, le deuxième volume, qui mêle le destin de Rivage à celui de l'écrivain culte Richard Brautigan, le dernier des beatniks. Et je vous dis aussi que ces deux livres-là sont aussi au SQLA, donc Mayonnaise et Hongrie Hollywood Express. Alors, si vous voulez aller chercher la trilogie, donc ce troisième-là qui s'appelle Pomme S de Éric Plamondon, eh bien, c'est le temps de contacter le SQLA. Et je vous propose un extrait. C'est le tout début, je pense, de... Non, ce n'est pas tout à fait le début. Je pense que c'est le chapitre 3 dans mes souvenirs. Alors, on écoute... je ne vais pas le dire, mais c'est Jacques Pasquet qui lit ça. En principe, on ne dit pas qui lit, mais je suis sûr que c'est Jacques Pasquet. J'ai reconnu sa voix. Extrait de Pomme S de Éric Plamondon.
Arbeit macht frei. Gabriel Rivage découvre la littérature grâce au surréalisme. À 23 ans, il tombe sur le Manifeste d'André Breton. Il y fait la rencontre du comte de Lautréamont. Plongé dans les champs de Maldoror, Rivage n'a jamais ressenti un texte de manière aussi puissante, aussi physique. Le livre du comte, de son vrai nom Isidore Ducasse, est autant une aventure charnelle qu'intellectuelle. On n'en sort pas indemne. On comprend la force que peuvent avoir les mots. C'est quelque chose comme la scène du rasoir tranchant l'œil au début d'un chien andalou. C'est un combat de boxe sans gants, un match de lutte sans trucage, une bagarre de rue sans issue. Lautréamont écrit « J'ai reçu la vie comme une blessure et j'ai défendu au suicide de guérir la cicatrice. » Rivage n'en demande pas plus. C'est exactement ce qu'il lui faut. Ça est la fameuse métaphore du jeune homme. Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie. C'est sans doute une singère, sinon une Remington.
Voilà pour cet extrait de Pomme S de Éric Plamondon. Je sais que là, tout le monde est mort de rire parce que je sais que nous, en France, on dit singère et ici, tout le monde dit seigneur. Mais je ne sais pas, il me semble que moi, c'est allemand, cette affaire-là. Donc, je ne suis pas sûre qu'on est obligé de prononcer ça seigneur. Mais en tout cas, je sais, on dit singère et on dit les pampers aussi pour les couches culottes des enfants, ce qui fait rire aussi beaucoup nos amis québécois qui ont l'habitude de mettre des pampers aux fesses de leur bébé. On continue, on ouvre un nouveau chapitre.
Des nouvelles et des livres.
Oui, des nouvelles, ce qui nous permet d'associer des nouvelles, parfois gaies, parfois un petit peu plus tristes, comme ces deux décès. C'est arrivé cet été. J'avais noté cela dans mes petits papiers. L'auteur Micheline Lafrance, qui a signé pas mal de romans, de poésie, de nouvelles, mais aussi au début de sa carrière, des dramatiques radio et télé. C'était Catherine Lalonde qui nous rappelait ça dans Le Devoir. Eh bien, elle est décédée des suites du cancer. C'était le lundi 21 juillet dernier. Elle avait 70 ans. On nous rappelle ici qu'elle était née dans Rosemont en 1944, où elle a grandi. Elle avait fait ses débuts comme comédienne. Elle était de la cuvée des Pierre Curzi et autres Paul Baillargeon à l'École nationale de théâtre avant de se tourner vers l'écriture. Et je voudrais vous signaler qu'au SQLA, nous avons notamment de Micheline Lafrance ce livre, si vous aimez le théâtre, cette biographie qu'il ne faut absolument pas manquer, celle de Denise Pelletier. Denise Pelletier ou la folie du théâtre que Micheline Lafrance avait signé en 1979. Une autre disparition cet été, celle de la romancière et prix Nobel sud-africaine Nadine Gordimer. On disait que c'était la chroniqueuse des absurdités de l'apartheid et elle est décédée à 90 ans. Voilà une femme qui a mis sa plume toute sa vie au service de la lutte contre l'apartheid, dont elle a fait surgir l'histoire à partir de vies individuelles. Et entre autres, parmi les livres que l'on retrouve au SQLA, je vous recommande fortement « L'arme domestique ». C'est une brique, hein, vous en avez pour 12 heures d'écoute. Nous sommes en Afrique du Sud, dans une famille libérale, une famille de Blancs, qui explose lorsque le fils unique est accusé du meurtre de son colocataire et petit ami, qu'il surprend dans les bras de sa nouvelle petite amie, donc. Nous sommes en Afrique du Sud. Les critiques avaient été dithyrambiques. Une toute petite citation. « Il est regrettable qu'une âme mortelle, un pistolet, ait été imprudemment considérée comme faisant partie du mobilier de cette pièce et qu'il se soit trouvé là, sur la table. »
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, quelques titres en rafale, comme c'est la coutume, la tradition. Tout d'abord, ça, c'est pas une nouveauté, mais ça vient d'être réenregistré. Et Montou est un homme de Boileau-Narcejac. Vous savez, de ce couple terrible qui ont publié sous leur double signature une vingtaine de romans, dont la plupart ont été portés à l'écran. On se souvient des Diaboliques. On se souvient de Sueur froide aussi, qui a été porté à l'écran par Hitchcock et tant d'autres. Alors, ils ont remporté en 65 le prix de l'humour noir avec « Et Montou est un homme ». L'histoire, bon, un spécialiste de la greffe qui a résolu les problèmes posés par les phénomènes de rejet. Je ne vous en dis pas plus, c'est du Boileau d'Arsejacq. On est vraiment dans l'univers polar, noir de ces années-là. Là, ici, j'avais un petit extrait. Qu'est-ce que ça disait ? On fête Noël en famille. C'est ce qui arrive quand t'as pas d'amis. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un extrait de ça. Alors là, elle est complètement perdue, la fille, c'est un extrait du prochain. Oh, ben que voulez-vous, nous sommes en direct, mes amis, en ce mercredi midi, mais peut-être que vous nous prenez en reprise, puisque ça va passer en reprise, cette émission-là, régulièrement, et je viens, pendant que je vous parle, j'ai retrouvé le petit extrait en question. Il s'appelle Marek, cet homme qui est capable de nous faire des espèces de monsieur monstre. Marek est capable non seulement de transférer d'une bête à une autre, un cœur, un foie, des poumons, à plus forte raison, une patte, mais encore, vous entendrez, Garrick, une tête. En d'autres termes, il a mis au point la greffe intégrale. Il reste 1 minute et demie à l'émission, j'ai donc absolument le temps de vous citer d'autres livres qui viennent de sortir, mais là, si vous voyez le bazar dans mes feuilles devant moi, c'est vraiment une horreur. Je sais qu'il y a le livre de Daniel Lemire, et c'est d'ailleurs un extrait du Daniel Lemire que j'ai failli vous lire tout à l'heure. Je vais vous retrouver ça, mes amis. Non, on ne panique pas. Alors, de quoi je voulais vous parler ? Oui, c'est ça, Harcèlement textuel coupable de Daniel Lemire. Et c'est lui qui disait, entre autres, dans ce livre-là, bon, alors il y a toutes sortes de sketchs qu'on y retrouve, il y a aussi quelques citations, et style, « Quand les enfants étaient jeunes, nous étions à peu près le seul couple encore ensemble parmi les parents de leurs amis. On leur avait dit, aimeriez-vous qu'on se sépare ? Vous devez faire rire de vous à l'école. » Bon, c'est du Daniel Lemire. Et ça fait rire Michel Langlois. Michel Langlois, que je remercie. Merci beaucoup d'être venu à cette émission qui s'achève. Je remercie aussi Gérald Cousineau, abonné du SQLA, qui est venu nous parler en tout début de cette émission. Et je remercie Marie-Christine Mora, bénévole. Marie-Christine, merci et pour le beau travail d'enregistrement et merci d'être venu. Merci Jean-Sébastien, La Liberté, pour le beau travail à la technique. C'était Clotilde Seille qui animait et réalisait l'émission à Livre Découvert. À la semaine prochaine.